Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables à un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Il est 15h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le discours d'Emmanuel Macron contient de bonnes impulsions pour que l'Europe reste forte. C'est le sentiment du chancelier allemand Olaf Scholz. Emmanuel Macron a présenté pendant près de 2 heures tout à l'heure sa vision pour l'avenir de l'Union européenne. À 1 mois et demi des européennes, le chef de l'État appelle à un nouveau sursaut de l'Europe si elle ne veut pas mourir. Une Europe dont les valeurs de démocratie libérale sont de plus en plus critiquées et contestées, en tête des intentions de vote. Jordan Bardella dévoilera dans quelques heures son programme pour le scrutin du 9 juin. Le président du RN entend couper l'élan insufflé par Emmanuel Macron. Jordan Bardella qui est crédité de plus de 30% des voix aux européennes, loin devant la liste de la majorité. Le chômage se stabilise en France avec une très légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi à 0,1%. Les intentions d'embauche pour cette année se maintiennent à un très haut niveau malgré un léger fléchissement par rapport aux années précédentes. Il est toujours en garde à vue. Un adolescent de 16 ans a été interpellé hier à Marigné en Haute-Savoie, soupçonné de préparer une attaque pendant les JO de Paris. Noémie Loisel, vous êtes sur place pour Europe 1.
Oui, c'est chez ses parents que cet adolescent de 16 ans de nationalité française a été interpellé. Suivi pour radicalisation islamiste, il projetait de commettre un attentat suicide pendant les Jeux Olympiques dans le quartier d'affaires de la Défense. Les enquêteurs ont repéré l'adolescent sur la messagerie sécurisée Telegram. Dans ses messages, le jeune homme cherchait à se procurer du matériel pour confectionner une ceinture explosive. Il écrit aussi vouloir mourir en martyr au nom de l'organisation État islamique. Un serment d'allégeance à Daesh a d'ailleurs été découvert par les enquêteurs lors de la perquisition à son domicile. Un téléphone a aussi été saisi et sera analysé. L'adolescent a été placé en garde à vue.
Noémie Loisel pour Europe 1. Un amphithéâtre de Sciences Po Paris a été évacué la nuit dernière par les forces de l'ordre. Le site était occupé par quelques dizaines d'étudiants qui y tenaient un rassemblement pro-palestinien. Le Moulin Rouge, défiguré, les ailes du célèbre cabaret parisien sont tombées dans la nuit. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Il n'y a plus aucun risque d'effondrement selon les pompiers. La direction du Moulin Rouge exclut tout acte malveillant. Et puis du tennis, c'est symbolique. Richard Gasquet a perdu aujourd'hui son 1000e match sur le circuit ATP. Défaite en 2-7 au premier tour du Masters 1000 de Madrid.
Europe 1.
15h03 sur Europe 1, historiquement vôtre, c'est maintenant.
15h, 16h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Merci Quasimodo.
J'ai appris que dans la vie gouvernementale, comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi parfois en passant sous les radars. Des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter.
Et aujourd'hui de 15h à 16h sur Europe 1, c'était un événement et un jour qui a changé tous les autres que Stéphane Bern nous fait découvrir dans son récit du jour.
Cet après-midi, je vous raconte une date restée dans l'histoire. Le 25 avril 1974, il y a 50 ans, jour pour jour, lorsqu'une insurrection militaire vient au rejoindre par de nombreux Portugais, a mis fin au régime autoritaire initié par Salazar, ou la véritable histoire de la révolution des œillets au Portugal. D'où vient le nom de cette révolution? Quelles étaient ses promesses? Et ont-elles été tenues? Quelle place cet événement occupe-t-il aujourd'hui dans la mémoire collective au Portugal? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir un historien enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste de l'histoire du Portugal contemporain. Bonjour Yves Léonard.
Bonjour.
Il y a 50 ans, jour pour jour, avait lieu la révolution des œillets au Portugal. Comment le pays commémore-t-il cet anniversaire? Cet événement fait-il aujourd'hui consensus?
Il faisait consensus, c'est-à-dire que c'est un événement, c'est le jour de la liberté, et c'est un jour férié, et tout le monde se rassemble pour célébrer les œillets d'avril. Mais la situation aussi politique a évolué, il y a eu des élections il y a quelques temps, et du coup, ce consensus est en train de s'effilocher avec l'émergence d'une formation d'extrême droite qui ne fait pas mystère de son hostilité à ce 25 avril.
Le mouvement Chega avec M. Ventura, c'est ça ?
C'est ça.
Remet en cause, justement, ou plutôt défend l'héritage de Salazar ?
Plutôt remet en cause la révolution des œillets comme étant finalement responsable de l'évolution du pays depuis 50 ans, avec une constitution qui est beaucoup critiquée par Chega, et puis un petit fond nostalgique aussi, sinon de Salazar, mais du salazarisme, du bon temps où les trains arrivaient à l'heure, en quelque sorte.
Vous publiez justement Salazar, le dictateur énigmatique aux éditions Perrin. On va continuer d'en parler ensemble, Yves Léonard, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le jeudi 25 avril, 8 mai 1974, il y a 50 ans jour pour jour. À Lisbonne, c'est le matin, il est 10h dans la capitale portugaise, le ciel est gris, mais les œillets sont en fleurs. Et dans l'une des rues qui mènent sur la Praça do Comércio, la célèbre place du commerce bordée du ministère qui fait face au Taj, il n'y a pas de bruit. Et pourtant, il y a du monde. Si habituellement, ce sont les ouvriers, les étudiants et les marchands ambulants qui martèlent du pied la calçade portugaise, cette chaussée composée de petits carreaux de calcaire noir et blanc, là, la rue et les trottoirs sont occupés uniquement par des hommes en uniforme et deux camps se regardent en chien de faïence. D'un côté, celui des militaires qui forment le MFA, le mouvement des forces armées, et veulent le renversement du pouvoir, la fin de la dictature et la mise en place d'une démocratie. C'est pour cela qu'ils ont préparé un coup d'État depuis de longs mois. Face à eux, le général Junqueira dos Reis et ses soldats. Lui obéit aux ordres du gouvernement en place, celui de Marcelo Caetano, le président du Conseil portugais, l'équivalent du chef du gouvernement, un ancien ministre des colonies proche de Salazar, à qui il a fini par succéder à la tête du pays en septembre 1968. Et évidemment, ce dictateur, comme son prédécesseur, ne va pas s'incliner et donner le pouvoir à des socialistes, pire, à des communistes, ne rien céder aux insurgés, ne jamais laisser mourir le fascisme. 40 années d'État novo, l'État nouveau en français, ne vont pas disparaître en une journée parce que des capitaines qui refusent de continuer à faire la guerre dans les colonies l'ont décidé. La situation semble donc mal engagée pour la colonne des militaires rebelles qui ont réussi à prendre possession de la place du commerce quelques minutes auparavant. Il faut agir, et vite. Soudain, Salgueiro Maia, un jeune capitaine de 29 ans, s'avance seul, un mouchoir blanc dans une main et une grenade dans la poche, en direction du général et de ses blindés. Il le sait. Un seul mot du haut gradé et il est criblé de balles. Cet ordre, qui pourrait sceller son destin, le général le prononce. Feu ! Il hurle sur ses soldats d'abattre ce jeune capitaine qui se bat pour la démocratie. Feu ! Vocifère-t-il de nouveau. Mais rien n'y fait. Ces hommes sont à leur tour emportés par ce vent de liberté. Tous déposent les armes et rejoignent leur camarade Salgueiro. Il en aura fallu de peu au capitaine pour voir sa carrière et surtout sa vie voler en éclats. Il peut à présent poursuivre sa mission avec ses insurgés, le renversement de la dictature autoritaire créé par Antonio de Oliveira Salazar il y a un demi-siècle. Et cette révolution a débuté quelques heures auparavant, en pleine nuit.
Et c'est une révolution que nous allons revivre cet après-midi sur Europe 1 grâce à Stéphane Bern qui, vous l'avez compris, nous raconte la révolution au Portugal 50 ans après les faits. C'est dans Historiquement Vôtre et c'est sur Europe 1.
Europe 1, 15h, 16h, Historiquement Vôtre.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1,
15h, 16h,
historiquement vôtre.
15h10 sur Europe 1, excellent après-midi avec Stéphane Bern qui continue de nous raconter aujourd'hui la révolution portugaise qui a fait chuter la dictature initiée par Salazar il y a tout juste 50 ans, le 25 avril 1974. Une opération qui a débuté, et Stéphane nous le disait, en pleine nuit.
Écoutez.
La Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade.
Vous l'entendez, la célèbre chanson de José Afonso, Grando la Villa Morena. Cette chanson est diffusée en pleine nuit, à minuit 20 plus précisément, sur une radio portugaise très écoutée, Radio Renaissance. Vous me direz, rien de surprenant que de mettre de la musique à la radio, mais pour le commun des mortels, cette chanson pourrait presque passer inaperçue, presque oui. Car il s'agit quand même d'une chanson contestataire, qui dit que c'est le peuple qui commande à Grandola et son auteur est communiste. Mais pour les militaires qui s'apprêtent à renverser le pouvoir, elle prend tout son sens. C'est le mot de passe. Le signal qui indique à l'ensemble des unités à travers le pays que le coup d'État, puisque c'est bien d'un coup d'État dont il s'agit, est lancé. L'opération Virage historique a commencé. Pour orchestrer cette opération très risquée, un homme a été nommé, le major Otelos Areva de Carvalho. Depuis un quartier général improvisé dans la banlieue de Lisbonne, il donnera ses instructions aux capitaines insurgés. Et ils sont nombreux à décider de désobéir à leur chef et vouloir renverser le pouvoir. On parle d'environ 2000 hommes. On les appellera plus tard les capitaines d'avril, ceux qui ont réalisé la révolution. Mais en attendant, tout reste à faire. Il est donc minuit 20 et à partir de cet instant, tous les capitaines se mettent en mouvement. Leur premier objectif est de rallier à leur cause un maximum de leurs camarades. Alors, ils les réveillent en pleine nuit, les persuadent de ne plus aller faire la guerre dans les colonies, mais plutôt de se battre pour la paix, l'instruction et la nourriture dans leur propre pays. Et quand des hauts gradés, des généraux principalement, tentent de s'opposer à ce soulèvement, les militaires les enferment le temps de constituer une unité. Maintenant que plusieurs unités ont rejoint le mouvement révolutionnaire, la priorité de ces courageux soldats est de prendre d'assaut les principaux points stratégiques du Portugal. L'aéroport de Lisbonne, les ministères, la télévision, les radios. Et à 4h du matin, une grande partie de leur cible est déjà atteinte. L'effet de surprise a joué. Et ils sont confrontés à peu de résistance. Pour autant, le stratège de ce coup d'État, Oscar, le nom de code d'Otelo de Carvalho, ne veut prendre aucun risque. Alors, à 4h26, il fait diffuser un message à la radio. Autant la chanson de José Afonso était destinée aux militaires, autant ce message est directement adressé aux Portugais. Il leur est clairement expliqué qu'une opération militaire est en cours et que pour la sécurité de chacun, ils doivent rester enfermés chez eux. Le pays est donc à cette époque sous le joug de la dictature salazariste et le gouvernement pourrait ne pas hésiter à tirer et tuer alors des civils comme des militaires pour rétablir l'ordre. Otelos Areva de Carvalho et ses camarades capitaines d'avril sont obsédés par l'idée d'avoir un coup d'avance sur le gouvernement. Alors, ils ont fait installer des téléphones et des tables d'écoute dans leur quartier général. Ainsi, Otelo peut écouter les conversations des ministres. Le jour est à peine levé et le plan, minutieusement préparé depuis plusieurs jours, se déroule comme prévu. Le jeune capitaine Salgueiro Maia, arrivé tout droit de l'école de cavalerie de Santarém avec sa colonne militaire, pénètre même sans difficulté avec ses blindés dans le cœur de Lisbonne pour venir occuper ce qu'on appelle alors le Terreiro do Paço, la place du commerce. Ce point de chute est l'un des plus stratégiques. C'est ici que siègent les banques, la radio Marconi, les principaux ministères. Donc, réussir à en déloger les occupants est essentiel pour renverser le régime. Le problème, c'est que l'homme que tous les militaires rêvent de voir tomber, celui dont on espère la reddition immédiate, Marcelo Caetano, refuse de se rendre. Le président du Conseil a trouvé refuge à la GNR, la Garde nationale républicaine. Au premier abord, le choix ne paraît pas illogique et pourtant c'est l'une des pires décisions qu'a prise le responsable de la police. Ce bâtiment est situé en plein cœur de Lisbonne, sur l'une des 7 collines de la ville et il est encerclé de rues. Tant et si bien que les militaires n'ont qu'à faire le tour pour l'empêcher de s'échapper. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Le capitaine Salguero Maya et ses troupes arrivent sur cette place appelée Largo do Carmo et positionnent leurs chars face aux troupes fidèles au régime. Le message est clair. Le président du Conseil et les ministres qui l'accompagnent ont tout intérêt à se rendre, sinon un bain de sang est plus qu'envisageable. De sa fenêtre, Marcelo Caetano voit bien ses militaires prêts à en découdre. Et ils ne sont pas seuls. Il n'y a pas que des soldats qui l'attendent en contrebas et qui exigent sa démission. Et c'est peut-être cela qui lui fait le plus peur.
Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans un instant sur Europe 1 avec Stéphane Bern qui nous raconte la suite de la révolution portugaise. C'est dans Historiquement Vôtre sur Europe 1 de 15h à 16h. A tout de suite.
Europe 1, 15h-16h.
Historiquement Vôtre.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Vous changez de voiture?
Vous achetez un récepteur de radio?
Demandez le DAB+.
Le DAB+, c'est la radio avec un son de qualité numérique.
Europe 1, 15h-16h.
Historiquement Vôtre.
Et toujours avec Stéphane Bern sur Europe 1. Stéphane Bern nous raconte aujourd'hui, 50 ans jour pour jour après les faits, la révolution portugaise qui a précipité la chute de la dictature installée par Salazar et poursuivie par Marcelo Caetano. Mais pour le moment, le président du Conseil, réfugié dans le bâtiment de la gendarmerie nationale avec ses ministres, refuse de céder face aux militaires qui ne sont d'ailleurs plus seuls à vouloir renverser le pouvoir.
Abat le fascisme, plus de guerre coloniale. Ces injonctions n'émanent pas des militaires, ce sont les paroles des Portugais, des gens du peuple. Car malgré les consignes diffusées toute la nuit à la radio, les Lisboètes n'ont pu s'empêcher de sortir de chez eux, d'arpenter les rues à la recherche des blindés et prendre part, eux aussi, à ce coup d'État pour renverser le régime. Ils se sont trop tus pendant près d'un demi-siècle de dictature, alors désormais ils veulent faire entendre leur voix. Ils ont plusieurs milliers d'hommes, de femmes, à braver le danger pour rejoindre ces soldats, ces capitaines. Spontanément, ils leur offrent du pain, des boissons, du tabac, car cela fait plus de 12 heures qu'ils n'ont pas fait de pause, qu'ils ne se sont pas sustentés. Sur la place Largo do Carmo, où dès midi, les événements se cristallisent, les civils se mélangent aux militaires. Beaucoup grimpent aux arbres, aux poteaux de signalisation, sur les rebords des fontaines, sur les épaules de leurs amis. Ils veulent en être de ce moment qu'ils espèrent historique. Mais il tarde à venir. Alors le jeune Salguero Maia téléphone à Oscar, le stratège Hotel Osarev de Carvalho. Que faire? La réponse, il la connaît déjà. Il l'avait prévu dans les plans qu'ils ont échafaudés. Le capitaine doit tirer sur la façade pour montrer que le mouvement n'est pas une simple mutinerie. Il s'agit d'un soulèvement global et les insurgés sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Salguero Maia prend alors son mégaphone et prévient à intervalles réguliers le président du Conseil que s'il ne se rend pas, il intimera l'ordre de tirer sur la caserne. Il demande à la foule de reculer, de se mettre à l'abri. Nul ne sait comment les gardes vont réagir à cette attaque. Une première rafale de mitraillettes se fait entendre. On attend quelques instants, aucune réaction. Une deuxième salve de tir, toujours aucune réaction. On positionne les blindés face aux fenêtres. Pendant tout l'après-midi, les insurgés à l'extérieur, le président du Conseil et ses quelques ministres à l'intérieur campent sur leur position. Enfin, à 18h, Caetano accepte de parlementer, mais avec un militaire de haut rang. Hors de question pour lui de discuter avec des officiers subalternes, qui plus est traîtres à la patrie en fomentant un coup d'État. Le général de Spinola est donc choisi pour venir s'entretenir avec lui. Ce général n'est pas un inconnu du gouvernement en place. Il a notamment côtoyé de près les terribles guerres coloniales. Il a été envoyé à la fin des années 60 en Guinée-Bissau pour commander les troupes. Mais depuis quelque temps, il a pris ses distances avec le pouvoir dictatorial portugais. Il a d'ailleurs écrit un livre, « Le Portugal et son avenir », dans lequel il critique la politique coloniale de l'État. Il s'est donc rapproché du mouvement des forces armées et souhaite visiblement lui aussi le renversement du régime. Pendant plusieurs minutes, il s'entretient avec le président du Conseil. Et peu avant 19h, après avoir assuré à Marcelo Caetano que les militaires ne menaceront pas sa sécurité, il reçoit officiellement la démission du gouvernement. Marcelo Caetano vient de céder. Il rejoint sous bonne escorte l'aéroport de Lisbonne, direction l'île de Madère, puis le Brésil. C'est là-bas qu'il finit ses jours. Il ne reviendra jamais au Portugal, de peur d'être jugé. À Lisbonne, ce 25 avril 1974, la journée est loin d'être terminée, car si le gouvernement n'est plus, la police politique, elle, résiste. Elle a semé la terreur pendant plus de 40 ans auprès de la population et ses membres ne semblent pas prêts à s'avouer vaincus. Alors que militaires et civils se réunissent devant les locaux de ce qui s'appelle officiellement depuis 1969 la DGS, tout le monde l'appelle encore la PID, Police Internationale et de Défense de l'État, des coups de feu retentissent. Ils ne proviennent pas des militaires qui, pendant toute la durée du coup d'État, ont mis un point d'honneur à éviter les fusions de sang. Non, ces coups de feu sont l'œuvre de la police politique. Au total, on dénombre 5 morts, 4 du côté du peuple et un membre de la PID. Quelques heures plus tard, cette police politique tant redoutée accepte à son tour de se rendre. C'est finalement vers 1h du matin à la télévision nationale que le général de Spinola annonce officiellement la chute de la dictature salazariste. En 24 heures, de jeunes capitaines accompagnés par les Lisboètes ont terrassé un régime dictatorial de près d'un demi-siècle. Car, on a tendance à l'oublier, mais la dictature portugaise est la plus longue que le XXe siècle a connue en Europe. Et elle a été incarnée pendant plusieurs décennies par un homme, un professeur devenu dictateur. Antonio de Oliveira Salazar s'empare du pouvoir en 1928 comme ministre des Finances suite à un coup d'État militaire en 1926, avant d'être nommé président du Conseil en 1932 et de créer l'année d'après ce qu'il appelle l'État nouveau, l'Estat Novo, un régime politique répressif, policier, qui va gâcher pendant 48 longues années la vie de millions d'habitants au Portugal.
Vous êtes bien sûr Europe 1, merci de nous rejoindre et vous écoutez Stéphane Bern qui nous raconte aujourd'hui un tournant dans la vie politique du Portugal, la révolution du 25 avril 1974. Restez bien avec nous, on découvre la suite dans un instant. C'est dans Historiquement Vôtre de 15h à 16h sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
C'est si bon.
Charolaise.
Parthenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui,
oui. Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise, appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Vérissure, la protection adaptée à chacun.
C'est à mon tour de prendre soin de mes parents pour qu'ils soient en sécurité, seuls chez eux.
Ils ne seront jamais seuls avec le bouton SOS de l'alarme Vérissure. Nos agents réagissent 24 heures sur 24 et alertent les secours si besoin. Rendez-vous sur verissure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS.
Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre.
Avec Stéphane Bern. Stéphane Bern nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 la révolution qui, il y a 50 ans, jour pour jour, a libéré le Portugal du joug de la dictature. Car oui, avant de parvenir à ce coup d'État, les Portugais ont dû subir une dictature pendant près d'un demi-siècle, imposée par un seul homme, Salazar.
Le pays le plus pauvre d'Europe, ne cherchez pas ailleurs. Le Portugal est le pays le plus pauvre d'Europe jusqu'en 1974. Et Antonio de Oliveira Salazar n'y est pas pour rien. Avec son régime autoritaire, conservateur et nationaliste, il n'a que faire de son peuple et ne fait rien pour le tirer vers le haut, pour améliorer son quotidien. Ce serait même dangereux. Si les Portugais se mettaient à manger à leur faim et à vivre mieux, à s'instruire, ils pourraient se révolter contre l'ordre immuable des choses et contre un régime salazariste qui n'est en rien égalitaire et démocratique. Ce n'est pas pour rien que jusque dans les années 70, l'économie portugaise repose pour beaucoup sur l'agriculture. Une agriculture désuète, accusant un retard immense face à des pays comme la France ou l'Allemagne, alors que le secteur industriel, comme le textile, n'offre que des salaires de misère. Les Portugais peinent à joindre les deux bouts. Leurs enfants sont bien souvent obligés d'arrêter l'école avant 10 ans pour aider aux finances de la famille. Le nord et le centre du Portugal sont des régions particulièrement touchées. Et en prenant la tête du pays, Salazar veut instaurer un climat de peur dans la population. Les Portugais émigrent massivement, en France notamment, et beaucoup de jeunes hommes refusent de faire le service militaire, dont la durée passe à 4 ans en 1968. Le dictateur met en place une police politique qui espionne, traque toute personne susceptible de représenter un danger pour l'État ou simplement qui exprimerait une critique envers le gouvernement en place. L'opposition politique est très difficile, les journaux sont contrôlés, les textes des journalistes, des écrivains, des chanteurs sont relus, modifiés, rejetés. Une grande poétesse, Sofia de Melo Brenner, écrit alors que même la voix de la mer devient exil. On murmure que le dernier qui quitte le pays éteint la lumière. La police est partout, la justice nulle part. Les tortures psychologiques comme physiques sont nombreuses, comme dans les prisons de Caxias ou Tarrafal. Certains détenus sont privés de sommeil pendant plusieurs jours et on estime à 30 000 le nombre de personnes incarcérées sous Salazar et plus tard sous Caetano. Cette terreur ne vient pas forcément du charisme du professeur Oliveira Salazar qui, comme le décrit notre invité cet après-midi, l'historien Yves Léonard, dans la biographie qu'il lui consacre, s'exprimait en public en lisant froidement et d'une voix nasillarde des textes soigneusement écrits et démonstratifs, cherchant à gagner en intelligibilité et en profondeur ce dont ses discours manquaient tant en termes d'émotion et de passion. Non, cette peur était présente du matin au soir où vous étiez espionné chaque minute au marché, au café, à l'université, partout. Et comme les Portugais, pour beaucoup, avaient reçu une instruction sommaire, rappelons qu'en 1970, un tiers encore de la population est analphabète, le régime s'appuie sur cette crainte des citoyens d'être emprisonnés. D'autant qu'une autre menace plane sur la tête des hommes en âge de combattre. Car si on ne peut pas lui reprocher une chose à Antonio Oliveira Salazar, c'est d'être têtu. Alors que dans les années 50, toutes les grandes puissances européennes acceptent tant bien que mal l'indépendance de leurs anciennes colonies, Salazar lui refuse catégoriquement de céder la moindre autonomie à ses territoires d'outre-mer. Il engage donc son pays dans des guerres coloniales sanglantes. Les peuples autochtones ne supporte plus la domination de l'Empire salazariste. C'est en Angola que les premiers combats débutent en 1961. Un an plus tard, ce sont les habitants de la Guinée qui se rebellent à leur tour, suivis l'année suivante par les Mozambicains. Au départ, l'armée portugaise dispose de soldats bien mieux équipés que ses adversaires, de chars moins vétustes. Mais très vite, les locaux rattrapent leur retard de matériel et donnent plus que du fil à retordre aux militaires envoyés par le régime salazariste. Ce qui ne devait être qu'une guerre rapide se transforme en bourbier dévastateur. Au total, 8000 militaires portugais perdront la vie dans ces combats, sans parler de ceux qui reviendront avec des membres amputés et des séquelles psychologiques graves. Alors forcément, du côté du peuple portugais, la colère gronde. Non seulement sous Salazar, puis sous son successeur Caetano, la vie quotidienne est plus que pénible. Les divorces sont interdits, les femmes sont soumises juridiquement à leur mari, la semaine de travail ne compte qu'un jour de repos, évidemment le dimanche, il n'existe aucun parti politique d'opposition autorisé, les enfants doivent souvent quitter l'école avant 10 ans pour travailler. Mais si en plus les familles se retrouvent décimées car les hommes servent de chair à canon dans des colonies dont on ne comprend plus l'utilité ni l'intérêt, malgré la propagande sur la nation une et indivisible du Minho à Timor, c'en est trop. Ce sentiment d'injustice se répand de Viana do Castelo au nord à Lagos dans le sud du pays et il touche toutes les couches de la population. Ces guerres durent depuis 13 ans et vont donc être l'étincelle qui décidera un certain nombre de capitaines à se rebeller et à créer le MFA, le Mouvement des Forces Armées, pour abattre le régime fasciste. Un régime qui ne disparaît pas lorsque Salazar est victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'éloigne définitivement du pouvoir en 1968, mais dure bien des années encore. La dictature tombe et ce rêve devient enfin réalité le 25 avril 1974 avec la chute en une journée de Caetano, celui qui a pris le contrôle du pays après lui. Mais désormais, c'est tout le Portugal qu'il faut reconstruire.
Et c'est justement ce que nous allons découvrir avec Stéphane Bern dans un instant. Il nous raconte la suite et la fin du récit consacré aujourd'hui, 50 ans après les faits, à la révolution des œillets du Portugal, avant de retrouver l'invité d'Historiquement Vôtre cet après-midi qui dresse le portrait de Salazar, celui par qui la dictature a commencé, l'historien Yves Léonard. A tout de suite dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Europe 1, 15h-16h, Historiquement Vôtre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1, au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins trois explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi ? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui ? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 15h31 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Historiquement Vôtre. Stéphane Bern nous raconte la révolution des œillets, le printemps portugais.
Mais juste avant, retour dans le présent avec le journal permanent et le rappel de l'actualité de ce jeudi 25 avril 2024. Et c'est avec vous, Émilie Dez.
Le début de l'enquête a été marqué par une forme d'omerta sur le procureur. 4 jours après la blessure par balle du chanteur Kenji Girac, on en sait peu sur les circonstances du drame. Des versions différentes des faits ont été données au secours. Kenji Girac a été victime d'un tir susceptible d'être à bout portant. Emmanuel Macron appelle l'Europe à retrouver la maîtrise de ses frontières et à l'assumer. Le chef de l'État qui s'est exprimé à la mi-journée depuis la Sorbonne a plaidé pour une Europe puissante qui se fait respecter et assure sa sécurité. Notez que les Républicains ont saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'ARCOM aussi, pour que le discours d'Emmanuel Macron soit décompté de la campagne de renaissance pour les européennes. À 6 semaines du scrutin, la liste RN de Jordan Bardella reste largement en tête des intentions de vote avec 12 à 15 points d'avance sur Valérie Ayé selon les sondages. Quelques 150 étudiants se sont réunis à la mi-journée à Sciences Po Paris. Ils protestaient contre l'évacuation la nuit dernière d'un site de l'établissement occupé par des étudiants pro-palestiniens évacués par les forces de l'ordre. La Croix-Rouge préconise un sac d'urgence pour chaque Français face aux événements climatiques extrêmes, un kit avec une trousse de secours, de la nourriture non périssable ou une lampe torche. Canicule, incendie de forêt ou encore inondation, le dérèglement climatique fait déjà partie du quotidien des Français, mais ils ne sont pas prêts à y répondre, selon une étude de l'association d'aide humanitaire. Et puis la direction du Moulin Rouge exclut tout acte malveillant. Les ailes du célèbre cabaret parisien sont tombées la nuit dernière sans faire de blessés. Il n'y a désormais plus aucun risque d'effondrement. C'était Émilie Dez sur Europe 1. Émilie Dez revient dès 16h pour vous informer. Juste avant, Sophie et les copains.
Europe 1,
15h, 16h,
Historiquement Vôtre.
Stéphane Bern, lui, continue de nous raconter sur Europe 1 l'histoire de la révolution portugaise qui a fait chuter, il y a 50 ans tout juste, le régime mis en place par Salazar. Mais une fois le gouvernement fasciste renversé, les militaires, le peuple et les politiques doivent trouver des solutions pour redresser le pays.
Le Portugal entre alors dans ce qu'on appelle le PREC, le processus révolutionnaire en cours. Le peuple, trop longtemps bridé, décide de reprendre le pouvoir. Et cela commence par des initiatives concrètes sur le terrain. Ainsi, les appartements vacants sont occupés par des familles qui ne trouvaient pas de toit. Dans les usines désertées par les patrons depuis le coup d'État, les ouvriers décident de s'organiser et de gérer eux-mêmes leurs lignes de production. On parle de 300 usines occupées. Un tiers de la population, soit 3 millions de Portugais, est syndiqué. Dans les grandes exploitations agricoles du centre du pays, les paysans reprennent eux aussi la gestion du domaine. Il ne se passe pas un jour sans qu'un journal, une radio ne parle de la révolution portugaise. Et cela dépasse largement les frontières. En France, en un an et demi, d'avril 1974 à novembre 1975, ce ne sont pas moins de 131 du monde qui sont consacrées au Portugal et son effervescence révolutionnaire. Oui, oui, on en a compté autant. Les politiques comme François Mitterrand ou Georges Marchais posent aussi le pied à Lisbonne dès le mois de juillet 1974 pour s'imprégner de cette ferveur de la gauche. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et de nombreux intellectuels leur emboîtent le pas. Chaque jour, des manifestations, des meetings, des concerts sont organisés. Le Portugal expérimente ainsi pendant 2 ans une sorte de laboratoire à ciel ouvert dans lequel toutes les initiatives pour reconstruire le pays sont envisagées. Et puis, en parallèle, des élections sont organisées pour stabiliser politiquement le pays libéré. Le 2 avril 1976, après plusieurs tentatives de putsch, l'actuelle constitution portugaise est adoptée et le général António Ramalho e Aneche est élu président de la République. La page se tourne enfin. De cette révolution, que reste-t-il ? Des acquis sociaux principalement, la création des syndicats de travailleurs, l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, la pluralité en matière de presse, le droit de grève, le salaire minimum, bientôt un système national de santé gratuit et universel. Mais la révolution portugaise a également eu le mérite de mettre un coup de projecteur sur ce petit pays du sud-ouest de l'Europe à travers son nom. Un nom qu'elle doit à une fleuriste, Céleste Caeiro. Ce jeudi 25 avril 1974, la jeune femme est censée, comme tous les jours, vendre au restaurant de la ville ses fleurs, en majorité des œillets parce que c'est la saison. Mais tous les commerces sont fermés sur ordre des militaires. Alors, en repartant chez elle, Céleste croise des soldats près du Rocio, en bas de l'avenue de la Liberté, les Champs-Élysées portugais. Ils lui demandent si elle n'a pas des cigarettes. Mais Céleste n'en a pas, mais elle leur propose des œillets, la plupart rouges. Les militaires acceptent la proposition insolite et accrochent leurs fleurs, soit à la boutonnière, soit au canon de leur fusil. La légende est née et désormais la révolution portugaise est entrée dans l'histoire sous le nom de Révolution des œillets.
Et pour continuer à parler de la révolution des œillets au Portugal, dans Historiquement Vôtre, sur Europe 1, Stéphane Bern reçoit l'historien Yves Léonard, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste de l'histoire du Portugal contemporain.
Yves Léonard, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La révolution des œillets a eu lieu aujourd'hui, il y a exactement 50 ans, jour pour jour, le 25 avril 1974. Et ce jour-là, selon vous, et vous le dites dans votre livre, c'est Salazar qui est dans le viseur alors qu'il est mort depuis 4 ans.
Oui, c'est le symbole d'ailleurs. Il y a une image qui va être beaucoup diffusée où on voit un soldat qui est au siège de la PIDE, de la police politique, qui va décrocher le cadre de Salazar, la photo de Salazar. Donc symboliquement, c'est un acte fort parce qu'en fait, ces capitaines rêvaient d'une chose, ils le diront ensuite, Otelo de Carvalho notamment, nous rêvions de renverser Salazar de son vivant. Ça n'a pas été possible, il est mort en 1970, mais il va ajouter ensuite... On est persuadé qu'il aurait été là, nous aurions réussi quand même. Alors ça, c'est l'histoire contrefactuelle, on ne le saura jamais. Mais c'est vrai que c'est le symbole et d'une certaine manière, l'histoire de Caetano, c'est l'histoire d'un échec. C'est-à-dire le salazarisme sans Salazar, ça ne marche pas. Et Caetano, pour un certain nombre de raisons, va se retrouver à des difficultés telles, et notamment sur la question coloniale, qu'il va échouer. Et donc Salazar est mort de sa belle mort, en quelque sorte, avec la dictature qu'il avait créée, qui était toujours en fonctionnement. Et c'est seulement les capitaines d'avril, 4 ans après, qui vont réussir ce que personne n'avait réussi à faire jusque-là, en mettre fin à cette vieille dictature.
Yves Léonard, je vous propose que l'on reparte quelques décennies en arrière pour s'intéresser davantage à la figure centrale de cette dictature portugaise d'un genre particulier, António de Oliveira Salazar, à qui vous consacrez donc une biographie qui vient de paraître aux éditions Perrin. Avez-vous percé tous les mystères de cet homme ?
Quand on écrit une biographie, ça serait très prétentieux et illusoire, je pense, d'imaginer percer tous les secrets d'un homme, d'un parcours, parce qu'on le dit souvent, un homme a énormément de facettes, et surtout quand on s'attaque à un personnage de cette nature, on l'a sous-titré le dictateur énigmatique, parce qu'effectivement, il s'est entouré de beaucoup de masques. Il a voulu créer une légende autour de lui, on a souvent dit, ces grands personnages, peut-être que leur vérité réside dans leur légende, mais j'ai essayé de mettre un petit peu tout ça à plat, de m'entourer du maximum de sources possibles, de garder à distance ce personnage qui est assez étrange à bien des égards, un homme cultivé qui était un professeur d'université qui ne correspondait en rien aux standards de l'époque, notamment quand il est arrivé au pouvoir dans les années 20 et 30, dans l'entre-deux-guerres. C'est peut-être le seul dictateur qui n'a jamais porté un uniforme militaire et qui s'en défendait d'ailleurs. Surtout pas. Il n'a jamais porté un uniforme, il n'a pas participé à la Grande Guerre. Bref, il n'a pas de passé militaire, de passé de guerrier. C'était une anomalie dans le paysage politique de l'époque. Et c'est cet homme-là qui a su justement gouverner avec les militaires, s'imposer aux militaires, prendre le pas sur les militaires et puis ensuite dérouler un peu sa partition avec une police politique très présente, une justice qui était aux ordres et surtout un discours, une propagande qui ont fait de lui un personnage très étrange. On parlera de lui comme d'un moine dictateur, mais il a créé tout ça de toute pièce.
Oui, ça s'est créé de toute pièce. Moine dictateur, dictateur malgré lui. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un homme quand même qui est dénué, dépourvu de tout charisme. Et pourtant, il a tenu le pays d'une main de fer pendant 40 ans. Mais il était quand même perçu par le peuple comme un gentil monsieur, d'une certaine manière.
Alors, une partie du peuple, c'est très difficile, mais ses origines modestes l'ont beaucoup servi. Il a d'ailleurs beaucoup communiqué autour de ça. Modeste, mais c'était pas non plus, c'était pas Zola, si vous voulez. Son père était régisseur d'une grande propriété dans les Beiras, c'est-à-dire la partie intérieure du pays. Et il a pu faire des études, ce qui était rare dans le Portugal de la fin du 19e siècle. Lui et ses sœurs, ses quatre sœurs aînées, ont pu également faire des études. Donc c'est un homme qui s'est construit d'une manière très méritocratique, on va dire, qui a fait des études, qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup instruit et qui a pu accéder à l'université, ce qui était encore plus rare à l'époque, à Coimbra. Et à Coimbra, bien, il est devenu un étudiant très respecté, parce qu'obtenant des notes très très élevées, et puis militant un peu dans une petite formation catholique d'étudiants de Coimbra. Et c'est à partir de ça qu'il a construit un destin, parce qu'on l'a souvent dit, et ses amis de l'époque le disaient, c'est un animal d'habitude, mais aussi un volcan d'ambition. Il l'avait surnommé un volcan d'ambition, mais qui cachait bien son jeu, c'est-à-dire qu'il mettait toujours ça derrière la volonté de servir, la volonté d'être utile, et disant qu'il avait accepté le pouvoir comme un fardeau, comme une charge qui lui pesait et qu'il ne rêvait rien d'autre que de retourner un jour enseigner à l'université de Coimbra. Il ne le fera jamais puisqu'il restera 40 ans au pouvoir.
Pour écrire cette biographie, vous avez exploité une masse d'archives, parmi lesquelles le journal intime de Salazar, qu'il a tenu quotidiennement à partir de 1933. Racontez-nous, que contient ce journal? Qu'est-ce qu'il raconte dedans?
Alors, c'est ce qu'on appelle le diario, c'est-à-dire que tous les jours, il notait scrupuleusement, à partir de l'année 1933, il notait scrupuleusement ce qu'il faisait. C'est-à-dire, c'est une sorte de bloc-notes commenté. Mais à la manière, tous les jours. Au début, c'est une assistante, c'est une sorte de secrétaire particulière qui prend sous sa dictée les notes. Et puis, à partir de la fin de l'année 1938, en 1939, c'est lui-même qui l'écrit tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'au mois de septembre 1968. Et d'ailleurs, la dernière ligne qu'il écrit, au moment où il part à l'hôpital, où il va être opéré et ensuite avoir cet AVC, il note qu'il a relu des dépêches sur les questions de défense, sur des questions militaires, c'est les derniers mots qu'il écrit dans son journal. Donc il écrit au quotidien ce qu'il fait, avec une précision tout à fait étonnante. Oui. 9h30, 11h30, il note le nom des gens et quelquefois il gratifie d'un petit commentaire. Et surtout avec son écriture personnelle qui est assez illisible. Alors la chance qu'on a aujourd'hui...
Comment vous avez fait, là ?
Alors, moi ça fait des années que je travaille sur le personnage, donc on essaye et puis on a des trucs un petit peu pour décrypter cette écriture très très particulière. Mais on a été aidé aussi par une archiviste qui a beaucoup travaillé depuis des années sur le fonds Salazar, aux archives nationales de Lisbonne, et qui, il y a 4 ans maintenant, a indexé tout ça, a numérisé, et donc ça permet un accès, c'est un format d'un e-book, en quelque sorte, qui est aujourd'hui accessible assez facilement, et que j'ai pu compulser encore plus aisément qu'à une époque où il fallait scolter au texte même, et c'était pas facile, parce que, voilà, on avait du mal à déchiffrer, puis
ce qu'elle a fait de remarquable, c'est qu'on arrive à savoir qui l'a rencontré le plus souvent, finalement. Mmh. Et c'est très étonnant, il y a des hommes qu'il a rencontrés 1000, 1500 fois dans son parcours. Alors, c'est des proches, vous avez un homme comme un universitaire, professeur de médecine à Coimbra, qui était son grand ami, il va dîner tous les soirs pratiquement avec lui, tous les samedis soirs. Pendant près de 40 ans, ils dînent tous les deux ensemble et ils le renseignent sur ce qui se passe à Coimbra, la température locale. C'est à la fois son confident, un ami de proximité. La grande difficulté de ce type de document, c'est qu'il se livre assez peu. Il dit ce qu'il fait, mais
il ne raconte rien sur lui-même.
Mais
on ne sait rien de sa vie privée non plus.
Alors, sur sa vie privée, on arrive à savoir pas mal de choses, qu'il a construit une légende. Oui. C'est-à-dire une légende qui correspondait aussi...
Il est marié avec le Portugal. Donc
marié avec la nation, il disait. Oui. Et l'Église catholique, son grand ami, le cardinal Serejaila, disait « Il est marié avec la nation, donc c'est parfait, c'est le moine dictateur. » La réalité est beaucoup plus complexe. C'est un homme qui a une vie personnelle, une vie privée, et qu'il a gardée mystérieuse pour un certain nombre de raisons. C'était un homme très travailleur, persuadé qu'il fallait évidemment consacrer l'essentiel de ses journées à l'État, à la défense d'un certain nombre d'idées. Mais il s'accordait aussi des moments avec des quelques femmes qu'on arrive à identifier, non sans difficulté, mais qu'on arrive à repérer ici et là pendant des années et des années. Mais il ne va jamais très loin. C'est-à-dire qu'il est assez, il se veut séducteur, et certaines femmes, visiblement, éprouveront des sentiments très forts envers lui, mais à aucun moment, par exemple, il envisage de se marier ou de construire une vie personnelle parce qu'il est marié avec la nation et puis que ça serait, dit-il, quelque part se dévier de la tâche essentielle qui est de travailler pour le bien de la nation. C'est la phrase essentielle du régime. Il y a une journaliste française, notamment, qui croisera son chemin au début des années 1950. Elle en tira un ouvrage qui a connu un certain succès, publié chez Grasset en 1951, qui s'appelle « Vacances avec Salazar », c'est Christine Garnier, et qui aura plus qu'une amourette avec Salazar dans le Portugal du début des années 50, et lui-même se fera photographier en sa compagnie, alors de manière évidemment très respectueuse, mais avec des costumes plus clairs, avec un timide sourire aux lèvres, bref, pour montrer que lui aussi était sorti du champ magnétique des fascismes et de la période de l'entre-deux-guerres et de l'austérité qu'il incarnait. Donc c'est un personnage très complexe qui mélange les genres. Il élèvera des pupilles aussi, ce qu'il appellera ses pupilles, notamment une jeune femme qu'il avait recueillie à l'âge de 6-7 ans et qui l'accompagnera, elle le dira elle-même, c'était comme un père pour moi. Et il l'a beaucoup accompagnée, beaucoup suivie. Et quand elle a eu des enfants, cette femme, eh bien, il en était une sorte de grand-père par procuration. Il était le parrain de son fils.
Je crois que vous avez rencontré beaucoup de gens qui ont connu Salazar. Le témoignage oral est encore possible du fait même que il a disparu il n'y a pas si longtemps.
Oui, j'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, de rencontrer des proches, enfin des gens qui ont travaillé avec lui, certains de ses ministres notamment, alors qu'ils communiaient tous dans l'admiration très forte pour la grandeur du personnage, l'homme d'État en quelque sorte. Hein, tous m'ont tenu. Après, en aparté, ils reconnaissaient aussi que ce n'était pas facile, même très difficile de travailler avec lui, parce qu'il déléguait très peu, et très peu, voire pas du tout, qu'il avait des idées arrêtées sur tout, et qu'il exigeait évidemment de ses collaborateurs, parce qu'on peut parler de collaborateurs, ses ministres étaient des collaborateurs plus qu'autre chose, une loyauté absolue. Aucune déviance possible, aucun pas de côté, mais en échange de quoi, c'était l'homme aussi, disent-ils, des rencontres en petit comité, où il excellait, en le tête-à-tête, c'est l'art où il excelle, et jamais de mots trop hauts, plus haut que les uns que les autres, c'est-à-dire pas de porte qui claque, pas de verre cassé, d'assiette qui tombe. Tout est une espèce d'orchestration, d'une forme de silence mesuré, teinté d'admiration, nimbé d'admiration, pour ce personnage réputé austère, mais cultivé, le professeur d'université, qui est là pour délivrer un discours et qui vous fait l'honneur de passer quelques minutes avec vous.
Cet après-midi, Historiquement Vôtre vous raconte 50 ans, jour pour jour après les faits, la révolution des œillets au Portugal. On continue à en parler avec vous, Yves Léodin.
Et juste après, un petit peu de musique, Stéphane, et ce titre sorti en 2003, signé Kyo, avec Sita. Voici Le Chemin, sur Europe 1.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre. Je t'entends. On a parcouru le chemin.
Kyo, c'était Le Chemin avec Sita, extrait de l'album éponyme, sorti en 2003 déjà. Merci d'avoir choisi Europe 1. Excellent après-midi, Europe 1 qui vous propose depuis quelques mois déjà de redécouvrir les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast inédit réalisé à partir des archives sonores d'Europe 1 et énorme succès des deux premières saisons avec plus de 3 millions d'écoutes. Alors retrouvez désormais un nouvel épisode chaque semaine. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, comme vous le savez, sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, sur votre site maison Europe1.fr et l'application Europe 1, bien évidemment.
Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre.
Et de 15h à 16h du lundi au vendredi sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre, Stéphane Bern nous raconte la véritable histoire d'un personnage, d'un événement ou d'un monument. Et aujourd'hui, on parle de la révolution des œillets au Portugal avec l'historien Yves Léonard.
Yves Léonard, on parle évidemment de la révolution des œillets et du personnage contre lequel les capitaines d'Avril se sont érigés, et c'était le dictateur Salazar. Quel personnage énigmatique, et vous avez raison d'utiliser ce terme
dans votre biographie.
Parce qu'au fond, il s'appuyait sur les militaires, mais il n'en était pas un. Il s'appuyait sur l'Église en revendiquant un catholicisme pieux. Mais il était doux, il n'était pas... C'est l'anti-Franco, en fait.
Oui, il y a beaucoup de choses qui l'opposent, effectivement, qui le différencient de Franco, énormément de choses, parce que lui, d'ailleurs, dans leur rencontre, le seul homme d'État que Salazar rencontrera véritablement, et y compris hors du Portugal, il ne se déplace jamais, il ne sort jamais du Portugal, c'est Franco. À partir, dès la fin de la guerre civile...
Il faut dire qu'ils ont une longue frontière en commun.
Ils ont, voilà, c'est... d'Espagne ne vient ni bon vent, ni bon mariage, disait-on traditionnellement, mais il va nouer, évidemment, des affinités électives avec ce régime franquiste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui les rassemblent, bien évidemment, mais Salazar aura toujours le sentiment que lui, c'est un universitaire et que Franco n'est jamais qu'un général, c'est-à-dire dans son référentiel, quelqu'un qui est quand même assez limité intellectuellement. Et ça, à défaut de lui faire sentir, Franco aura beaucoup d'admiration pour Salazar. Salazar jouera aussi la partition, mais sans véritablement la partager. Mais en revanche, voilà, il faut sécuriser à ses frontières un pays qui ne poserait pas de problème. C'est la hantise de Salazar au début lorsque commence la Seconde Guerre mondiale, c'est d'éviter que la péninsule ibérique tombe en guerre, parce qu'il se dit qu'à ce moment-là, eh bien, son régime qui est... C'est un pays petit, avec une armée qui n'est pas si nombreuse, et puis l'essentiel pour lui, l'avenir du pays, c'est Outre-mer, c'est les colonies. Et donc, il va tout faire pour éviter que le pays entre en guerre. Et Franco le convaincre de ne pas entrer en guerre.
Avec des conséquences qu'on doit reconnaître à Salazar, c'est que beaucoup de gens qui fuyaient la France collaborationniste ont trouvé refuge au Portugal et ont pu s'enfuir vers les États-Unis, notamment des Juifs.
Alors, c'est un des points, effectivement, sous la Seconde Guerre. Salazar, à défaut d'encourager, a laissé faire à sa manière. C'est-à-dire que, d'un côté, il avait donné des instructions pour que ce soit des flux migratoires très contrôlés, notamment des Juifs qui voulaient passer par Lisbonne, mais le Portugal était neutre. Et donc, il a maintenu ce statut de neutralité, et dès lors que les Juifs qui s'installaient à Lisbonne avaient les moyens de partir rapidement vers les États-Unis ou l'Amérique du Sud, ça convenait. Et donc, il n'a pas développé de législation antisémite, ce qui est assez rare dans l'Europe de l'époque, et il a laissé faire, mais il n'a pas encouragé. Plutôt, c'est la légende qu'il essaiera d'installer en 1945, non seulement d'avoir accordé des facilités aux Açores pour les Anglais et les Américains ensuite, mais surtout d'avoir été presque protecteur des Juifs, ce qu'il a loin d'avoir été, et on a tous en tête le souvenir du consul de Bordeaux, Aristide Sousa Mensch, qui lui, justement, a signé beaucoup de visas pour que le maximum de personne puisse passer la frontière. On est au mois de juin 1940 et il sera rappelé à Lisbonne, jugé et condamné et mis à la retraite d'office sans solde ou une partie de son traitement lui étant supprimée. Donc c'était un acte administratif, il avait désobéi aux ordres.
Yves Léonard Salazar, qui était affaibli depuis 68 et donc mort en 1970, que représente-t-il aujourd'hui dans la mémoire collective portugaise ?
Alors c'est à l'image de l'ambiguïté du personnage, de ce côté très énigmatique, c'est-à-dire que très officiellement il n'a pas suscité un culte comme Franco a pu le susciter après sa mort, avec même une symbolique, Val dos Caídos, le monument, etc. Salazar a été inhumé dans son village natal, dans le plus strict dépouillement, recueillement, avec une petite tombe, etc. Il l'avait souhaité ainsi. Et donc, avec la révolution des œillets, qui est une transition par rupture, l'héritage, revendiquer l'héritage de Salazar dans le prolongement de la révolution des œillets est impossible, parce que une partie du personnel politique est disqualifié, voire en exil au Brésil, etc. Donc, à la différence du régime franquiste et la transition qui va se construire sur ce qu'on a appelé l'amnésie, la loi d'amnésie, le pacte de l'oubli, au Portugal, rien de tout cela. Donc, il est très difficile de revendiquer l'héritage salazariste. Mais il y a une petite musique qui va se prolonger pendant des années et années, et qui aujourd'hui retrouve à la fois de l'actualité, plus le temps passe, moins les souvenirs sont présents de ce qu'a été la dictature, plus les témoins disparaissent, et notamment ceux qui ont fait la révolution des œillets, c'était il y a 50 ans, et on voit ressurgir avec l'onde de choc, la vague néo-populiste, disons, de cette extrême droite radicale qui est très présente aujourd'hui au Portugal, on voit ressurgir, comme en Espagne avec Vox, on voit ressurgir un discours qui consiste, sinon à promouvoir une forme de révisionnisme, certains disent que ce n'est plus le PREC, processus révolutionnaire en cours, mais le processus révisionniste en cours. On voit ressurgir cette musique aujourd'hui au Portugal, qui n'est pas à proprement parler une nostalgie de Salazar, mais de cette petite tonalité que le Portugal, quelque part, pour certains, se portait mieux avant 1974.
J'ai une toute dernière question, mais par simple curiosité, Yves Léonard, votre biographie est parue la semaine dernière en France, mais à la fin de l'année 2023 au Portugal. Comment a-t-elle été accueillie ? Parce que ça en dit long sur, justement, le regard que les Portugais d'aujourd'hui portent sur Salazar.
Alors, elle a été bien accueillie par la presse et les universitaires. Elle est à sa deuxième édition, donc on va considérer qu'elle a trouvé un public. Après, le contexte politique de ces dernières semaines la sert et la dessert à la fois. La sert parce qu'effectivement, on braque le projecteur sur ce personnage un peu oublié, un peu mystérieux, Salazar. Et puis, ça la dessert aussi parce que finalement, c'est toujours le même problème. Évoquer ouvertement Salazar, chacun a une petite anecdote à raconter sur Salazar dans son fort intérieur, dans les familles. Mais quand il s'agit de s'exprimer publiquement, il y a toujours beaucoup de retenue. Et peut-être que le fait d'être un auteur étranger me sert un petit peu quand même pour avoir écrit cette biographie et qu'elle soit lue avec un regard peut-être différent que pourraient avoir les lecteurs portugais à l'égard d'un écrivain, d'un auteur portugais.
Merci beaucoup Yves Léonard de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la révolution des œillets au Portugal. Je rappelle que votre livre « Salazar, le dictateur énigmatique » vient de paraître aux éditions Perrin. Et pour revivre la révolution du 25 avril en images, un beau documentaire est diffusé ce soir à 22h20 sur Histoire TV « Sous les œillets, la révolution portugaise » réalisé par Tony Liégeois. Et je le mentionne avec d'autant plus de plaisir qu'il est l'un des auteurs d'Historiquement Vôtre.
Et avec Stéphane Bern, l'histoire continue demain sur Europe 1.
Demain, je vous raconte Louise Labbé, la légende de la poésie. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1.
Oui, on va passer une très bonne après-midi. Grâce à Sophie Davant et toute sa bande de copains, 16h, 18h, pour jouer, s'amuser et tenter de gagner le jackpot qui est redescendu à 500 euros. Sophie, bonjour.
Bah oui, parce qu'il y a une auditrice qui l'a remporté hier. Il était de 1500 euros.
Bravo, elle.